Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Pour le premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger lancent de nouveaux passeports biométriques. Les États-Unis ont annoncé avoir complètement terminé le retrait de leurs troupes et leur logistique au Niger. Après de nouveaux affrontements avec le Hezbollah libanais, la possibilité d'une solution diplomatique s'éloigne, selon le ministre israélien de la Défense. Ici aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump échappe à une nouvelle tentative d'assassinat présumée. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt lancer de nouveaux passeports biométriques. Le président malien, Assimi Goïta, en a fait l'annonce. Ces trois États cherchent à consolider leur alliance après s'être séparés de la CEDEAO. Davantage avec Alexandrine Holognon.
L'objectif est d'harmoniser les titres de voyage dans notre espace commun, a annoncé le colonel Assimi Goïta lors d'une allocution télévisée dimanche soir. Il a aussi précisé que les trois États vont travailler pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin de renforcer la connexion de leur territoire grâce aux transports, réseaux de communication et des technologies de l'information. Cette annonce a eu lieu la veille du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023. Le Burkina Faso a aussi annoncé au début du mois qu'il mettait en circulation de nouveaux passeports sans le logo de la CEDEAO. En juillet dernier, les trois pays ont consolidé leurs relations en créant la Confédération des États du Sahel, regroupant 72 millions de personnes et qui sera présidée par le Mali lors de sa première année. En janvier 2024, les trois alliés se sont retirés de la CEDEAO, l'accusant d'être manipulé par la France.
Les États-Unis ont annoncé ce lundi avoir achevé le retrait complet de leurs troupes et de leur équipement au Niger, conformément aux exigences de nouvelles autorités militaires. Ce retrait met un point final à la présence militaire américaine dans le pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon un communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, le retrait des forces américaines s'est déroulé sans complications. Nous avons complètement honoré leur souveraineté, ils nous ont demandé de partir et nous l'avons fait pacifiquement et respectueusement, a déclaré le général Kenneth Ekman de l'AFRICOM. Malgré ce départ, les États-Unis ont encore des objectifs sécuritaires communs avec le Niger. Selon le général Kenneth Ekman, la prochaine étape sera d'écouter les besoins du Niger pour une relation future dans le domaine sécuritaire avec les États-Unis. Ce retrait des troupes américaines du Niger avait débuté en mai suite à la dénonciation à mars par le gouvernement nigérien de l'accord de coopération militaire. Le 30 août, l'armée allemande a annoncé que les derniers soldats de sa base militaire de Niamey sont bien rentrés en Allemagne.
Toujours au Niger, deux syndicats africains de journalistes s'inquiètent de la disparition depuis le 1er septembre dans la capitale Niamey de leur confrère ivoirien Serge Mathurin Hadou. Ils demandent des explications aux autorités. Joints par téléphone, ils ont affirmé n'avoir plus aucun contact avec lui depuis le jour de sa disparition et n'avoir obtenu aucune précision de la part de la justice ni des autorités nigériennes. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a expliqué que quelques heures avant sa disparition, Serge Mathurin Hadou a dit à son épouse devoir se présenter à une convocation de la police judiciaire. Selon des informations recueillies par l'UNJCI à Niamey, il est accusé d'espionnage et d'être de mèche avec des terroristes. Au nord-est du Nigeria, les habitants de l'état de Borno, touchés par les inondations, tentent d'obtenir des soins médicaux alors que les ONG sont débordées. Plus de 30 personnes ont été tuées par les pires inondations qu'ait connue la région depuis 30 ans. 1 million de personnes sont touchées selon les autorités. La plupart sont hébergées dans des camps sans nourriture ni eau potable. Les organisations caritatives mettent en garde contre une épidémie de maladies d'origine hydrique comme le choléra. D'autre part, les autorités nigériennes ont affirmé hier que 281 détenus se sont échappés après que ces inondations ont fait tomber les murs de la prison de Maïdougouri en début de semaine dernière. Au Rwanda, le président Paul Kagame a insisté sur la nécessité urgente d'éliminer les escroqueries sous couvert de religion. Monsieur Kagame s'exprimait lors d'un petit déjeuner de prière organisé à Kigali. Il a condamné l'inaction des dirigeants qui ont permis la persistance de telles activités. Certains chefs religieux ont exprimé leur mécontentement suite à cette déclaration. Le gouvernement rwandais a fermé plus de 4000 lieux de culte en juillet et en août. Au Soudan du Sud, le gouvernement de transition d'unité nationale a été prolongé de 2 ans, repoussant les élections de décembre à 2026. Le gouvernement sud-soudanais va informer demain les missions diplomatiques et les agences des Nations Unies de cette prolongation qui, selon lui, lui permettra de mettre en œuvre les protocoles restants de l'accord de paix. Le vice-président Riek Machar a déclaré lors d'un rassemblement vendredi que la prolongation était justifiée car 71% des dispositions de l'accord de paix de 2018 n'ont pas été mises en œuvre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a échappé pour la 2e fois en 2 mois à une tentative d'assassinat présumée. Le suspect, arrêté hier, a été inculpé ce lundi de crimes commis avec des armes à feu au niveau fédéral. Rosine Munezero.
Le suspect, identifié par la police comme étant Ryan Wesley Ruth, 58 ans, a comparu devant le tribunal où il a été informé qu'il était accusé de possession illégale d'armes à feu. Le FBI a annoncé qu'il enquêtait également sur ce qui semble être une tentative d'assassinat. Il a été arrêté hier, peu de temps après avoir été repéré, alors qu'il se cachait avec un fusil d'assaut au bord du parcours de golf de Trump à West Palm Beach. Les agents des services secrets ont ouvert le feu sans le toucher et il s'est enfui avant de se rendre sans lutter. Donald Trump a réagi sur Fox News ce lundi, affirmant que le suspect adhérait au discours de Biden et Harris et a agi en conséquence. Leur rhétorique fait que l'homme a tiré dessus, a dénoncé le candidat républicain. Joe Biden et Kamala Harris se sont dit de leur côté soulagés que M. Trump n'ait pas été touché. Cet événement survient alors que le candidat républicain a déjà échappé à une première tentative d'assassinat le 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie.
Le ministre israélien de la Défense estime que la possibilité d'une solution diplomatique pour mettre fin aux affrontements quasi quotidiens entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais Hezbollah s'éloigne. Plus de détails avec Nanit Talani.
La possibilité d'un cadre négocié pour le front nord s'éloigne à mesure que le Hezbollah continue de s'enchaîner au Hamas. La dynamique est claire, a déclaré Yoav Gallant lors d'une discussion téléphonique avec son homologue américain, Lloyd Austin. Monsieur Gallant a évoqué le sort des dizaines de milliers d'Israéliens toujours évacués de localités proches de la frontière entre Israël et le Liban, où les échanges de feu sont quasi quotidiens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023. Hier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis que son pays fera tout ce qui est nécessaire pour que les habitants du Nord rentrent chez eux en toute sécurité. Le statu quo ne peut pas durer, il faut changer l'équilibre des forces à notre frontière nord, a-t-il ajouté. Les affrontements transfrontaliers ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes de chaque côté et font craindre depuis des mois un embrasement régional. Selon l'AFP, ces échanges ont fait 623 morts au Liban, la plupart des combattants et au moins 142 civils.
L'Allemagne a rétabli ce lundi pour 6 mois des contrôles à l'ensemble de ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale avec un risque de nouvelles tensions dans le reste de l'Union européenne. De tels contrôles aux frontières intérieures sont proscrits au sein de l'espace Schengen, mais en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité, ils sont possibles pour une durée de 6 mois avec prolongation pour une durée totale n'excédant pas 2 ans. Et puis pour finir en Iran, le président Pezeshkian a promis d'œuvrer afin que la police des mœurs ne dérange pas les femmes ne portant pas le voile obligatoire en public. Monsieur Pezeshkian a tenu ses propos 2 ans après le décès, le 16 septembre 2022, de Madame Amini, une jeune kurde iranienne de 22 ans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Au Nigeria, la compagnie pétrolière nationale a augmenté lundi le prix de l'essence de 11%. Il s'agit de la deuxième augmentation en 2 semaines. Pourtant, après 8 ans de travaux, la raffinerie Aliko Dangote, la plus grande d'Afrique, a commencé à livrer ses premiers litres d'essence dimanche. La raffinerie d'une capacité à terme de 650 000 barils par jour est censée couvrir l'intégralité des besoins en carburant du pays et exporter une partie de sa production. Le Ghana a perdu plus d'un tiers de sa production de cacao en 2023-2024 à cause de la contrebande, selon le bureau en charge de la commercialisation. La contrebande est due à la faiblesse des prix locaux et les retards de paiement poussant certains agriculteurs à vendre à des réseaux de trafiquants de plus en plus sophistiqués. Le Kenya a commencé l'audit de la dette nationale, selon le ministre des Finances. L'audit des emprunts était l'une des principales revendications des manifestants contre les hausses d'impôts qui ont contraint le gouvernement à renoncer à un certain nombre d'augmentations d'impôts prévues en juin. L'auditeur général est un bureau indépendant mandaté par la Constitution et financé par l'État.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Les coupes africaines des clubs de football pour commencer avec le deuxième tour préliminaire. Allez.
Oui, les deux représentants ivoiriens ont connu des fortunes diverses en Ligue des Champions. Le FC San Pedro a été accroché 2-0 à domicile par les Soudanais d'Al Hilal. Le stade d'Abidjan, lui, s'est imposé 2-0 devant les Guinéens de Milo FC. Belle performance aussi de l'AS Douane du Burkina Faso, vainqueur 1-0 devant les Algériens du CRB Louisdad. Pareil pour le Djoliba de Bamako qui recevait l'Asco de Kara du Togo. Pour le coach des Maliens, tout reste à jouer à la manche retour.
Le match va se jouer au match retour et on sera beaucoup plus parce qu'en réalité le Djoliba n'a joué qu'à 50% de ses potentialités. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait.
Demba Mamadou Traoré, coach du Djoliba AC de Bamako, le coach de l'Asco de Kara du Togo, Lambert César Amani Yao a quant à lui indiqué que ses protégés ont encore leur mot à dire.
C'est du 50-50. Je connais mieux maintenant le Djoliba. On va se préparer en conséquence. L'essentiel, c'est de renverser la vapeur et de tout faire pour entrer en phase de poule.
Lambert César Amani Yao, entraîneur de l'Asco du Kara. Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Pour le reste, les favoris ont été au rendez-vous avec les victoires des Congolais du tout-puissant Mazembe 2-0 chez les Zambiens de Red Arrows et des Tanzaniens de Young Africans 1-0 sur la pelouse des Éthiopiens de Commercial Bank. Le tenant du titre Al Ahly du Caire a presque assuré sa qualification pour la phase de poule après son succès 3-0 face à Gor Mahia. Victoire en déplacement aussi des Sud-Africains du Mamelodi Sundowns et de l'Espérance du Tunis. Faux pas en revanche pour les Égyptiens de Pyramide accrochés 1-1 par les Rwandais d'APR, tout comme les Marocains de l'ASFAR qui ont concédé le nul 2-0 face aux Soudanais d'Almerek. À noter la défaite 2-1 des Angolais du Petro de Luanda sur la pelouse des Congolais de Maniema Union.
En Coupe de la Confédération, ça se complique pour Dadje FC et Daplawé.
Le club de l'Ouest du Bénin est tombé à domicile 2-0 devant les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Un résultat qui compromet les chances de qualification de Dadje FC d'Alpha Oué, mais son entraîneur ivoirien Yaya Koné y croit encore.
Cette défaite ne va pas nous froisser, tout au contraire. On va se servir de cette défaite-là. On a encore 2 ou 3 jours. On va continuer de travailler. Du sorte au match retour au Maroc, nous aussi on peut mettre 2 buts là-bas.
Yaya Koné, entraîneur de Dadje FC d'Alpha Oué. Toujours en Coupe CAF, dans les autres résultats, victoire des Sud-Africains de Stellenbosch 2-0 aux dépens des Congolais de l'AS Vita Club de Kinshasa. L'AS Otoo Doyo s'est incliné 1-0 face aux Mozambicains de Black Bull, défaite pour le stade malien face aux Libériens de Pentzville. Nul blanc 0-0 entre le Racing Club d'Abidjan et Jaraf du Sénégal. Succès des Togolais de l'ASK 2-1 opposé à la SEC d'Abidjan. Le Zamalek du Caire s'est rassuré à l'extérieur grâce à sa victoire 1-0 chez les Kenyans du Police FC. Le stade tunisien s'est imposé 1-0 sur les Algériens de l'USM. Les matchs retour des deux compétitions auront lieu en fin de semaine.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. À l'approche de l'élection présidentielle américaine, la campagne se retrouve secouée par une nouvelle tentative d'assassinat visant Donald Trump. Parallèlement, les sondages révèlent un soutien significatif des femmes envers Kamala Harris, la candidate démocrate. Le vote des électeurs indécis prend une importance accrue, tout comme les stratégies pour remporter les États pivots. Sur quelques enjeux de la campagne, Nani Talani a interrogé Nyaka Lagoke, professeur à Lincoln University à Oxford, en Pennsylvanie, un État décisif dans le scrutin de novembre.
Je ne crois pas que cette dernière tentative d'assassinat, si on peut s'exprimer ainsi, changerait quelque chose quoi, par rapport à l'élection. Ceux qui n'aiment pas Donald Trump vont continuer à ne pas l'aimer. Ceux qui l'aiment vont continuer à l'aimer, à le soutenir. Beaucoup de gens se sont mobilisés par rapport au Parti démocrate. Et je ne crois pas que subitement ces gens aient de la sympathie parce qu'on tenterait de tuer Donald Trump.
Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus favorables à Kamala Harris et les hommes à Donald Trump?
Oui, c'est ce qu'on constate dans les sondages qui sortent. Même s'il y a eu un petit changement après le dernier débat, oui, les femmes sont davantage mobilisées pour Kamala Harris, ce qui est tout à fait logique. Et puis, tous ceux qui croient aux libertés, au droit à l'avortement, et toutes ces personnes se mobilisent davantage pour Kamala Harris, et c'est de bonnes guerres.
Quels sont les segments des électeurs indécis qui sont les plus susceptibles de changer d'avis?
En fait, dans le monde rural, beaucoup de gens soutiennent Donald Trump. Et les indépendants, beaucoup d'entre eux ont estimé que Kamala Harris avait gagné le dernier débat. Mais je pense que quand on regarde ce qu'on appelle les démographiques aux États-Unis, les hommes auront tendance à voter pour Donald Trump, surtout les Blancs. Et puis Kamala Harris, il y aura certainement beaucoup plus de femmes, un peu plus de jeunes. On dit qu'il y a une catégorie d'indépendants qui pourrait changer, ça on ne peut le dire. Et cela dépendra de comment la campagne va se dérouler d'ici les élections.
Comment les candidats, donc Donald Trump et Kamala Harris, pourraient-ils ajuster leur stratégie pour maximiser leurs chances de succès dans les États clés?
Pour moi, il y a une chose que je peux dire. La personne qui va mobiliser le maximum d'électeurs en sa faveur, c'est cette personne-là qui va gagner les élections. En d'autres termes, il y a une expression en français qui est sortir le vote. C'est lui qui sera capable, ou c'est lui seul qui sera capable de sortir le vote. C'est cette personne-là qui va gagner les élections. Donc, Trump semble ne pas changer. Il s'attaque à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et là, maintenant, il s'attaque à Taylor Swift, qui a décidé de soutenir Kamala Harris, en disant sur les réseaux sociaux qu'il hait la femme. Je ne sais pas en quoi cela pourrait lui être favorable, mais c'est ce que Trump est. Et donc, je ne crois pas qu'il change d'attitude seulement. S'il peut galvaniser ses supporters et ses électeurs pour qu'ils soient plus nombreux que Kamala Harris, c'est seulement dans ces conditions qu'il peut gagner les élections. Et cela est aussi valable pour Kamala Harris.
C'était Nyaka Lagoke, maître de conférence en études panafricaines et en histoire à Lincoln University à Oxford, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger célèbrent le premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel. En juillet, les trois pays ont consolidé leurs liens par la mise en place d'une confédération des États du Sahel, présidée actuellement par le Mali et qui regroupe quelque 72 millions de personnes. Pour une analyse des perspectives dans la zone, Jean-Roger Bion, adjoint à Bamako, Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
La mutualisation des efforts
le soutien qui est accordé ça et là de part et d'autre sont des éléments qui me laissent entendre que l'effectivité de l'AES est une réalité. Et d'ailleurs, pour rappel, depuis mars 2024, la force conjointe de l'Alliance est aussi opérationnelle. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives sur les autres domaines de développement, tels que les questions de conflits locaux, les questions des infrastructures sanitaires éducatives et d'autres aspects vitaux de la vie sont des éléments qui sont pris également au sérieux à entendre les différents chefs d'État dans les différentes prises de parole. On se rend compte qu'il y a une attention particulière qui est accordée à la nécessité d'aller vers l'exploitation souveraine des ressources naturelles.
Alors, les observateurs dénoncent l'absence d'opposition dans les trois pays qui composent l'AES. Est-ce que ce facteur n'est-il pas préjudiciable à un espace qui veut faire partie du concert des nations?
Les dirigeants vous diront qu'ils n'ont rompu avec aucun pays. Ils ont juste tenté de mettre en place des fondamentaux à partir desquels tous les pays qui désirent collaborer avec eux, s'ils venaient à respecter ces principes, ils ne voyaient pas d'inconvénient de collaborer avec ces pays. Mais au-delà, pensez qu'ils sont isolés, ils vous diront qu'ils sont avec la Russie, ils sont avec la Chine, ils sont avec la Turquie, ils sont avec la péninsule arabique, j'en passe. Donc pour dire que le partenariat, il n'a pas été interrompu, mais plutôt il a été redéfini. Nous assistons davantage à un nouveau positionnement de la part de ces États vis-à-vis de l'étranger.
Alors, un an après la création de l'AES, quelles sont les perspectives dans la lutte anti-djihadiste?
Alors, concrètement, quand on parle de Takoub Gourma, ces quartiers généraux ne sont pas entièrement détruits. Et ils ont été sérieusement affaiblis à la suite des actions coordonnées que mènent ces trois États. L'Alliance des États du Sahel, effectivement, s'inscrivait dans cette nécessité de mutualisation des efforts. Mais là aussi, il faut aussi quand même, quand on regarde le positionnement vis-à-vis des pays comme la Mauritanie, l'Algérie, et même à certains égards le Bénin et la Côte d'Ivoire, naturellement, ce sont des insuffisances qui pourraient entamer l'efficacité des actions aujourd'hui qui sont engagées par ces trois États dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse terroriste, d'où la nécessité d'aller vers des actions davantage régionales que des actions qui seraient entre les mains des trois États, certes qui sont les plus touchés par l'insécurité liée au terrorisme.
Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Togo, c'est la rentrée scolaire pour les élèves des écoles primaires, secondaires et techniques. Pour cette nouvelle année, les autorités ont décidé d'interdire l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires. C'est à cause de l'usage inapproprié des téléphones portables par les élèves et la prolifération de contenus indécents et attentatoires sur les réseaux sociaux. De Lomé, notre correspondant Kossi Woussou.
Les résultats obtenus au cours de l'année scolaire 2023-2024 n'ont pas été du goût des autorités en charge de l'éducation au Togo, avec un recul de près de 50% de taux de réussite aux divers examens de fin d'année. L'utilisation à outrance des téléphones portables par les élèves a été indexée comme l'une des causes de ces résultats catastrophiques. Kayi Afide Alonyon du ministère de l'Enseignement technique nous donne les raisons de cette interdiction.
C'est pour améliorer la qualité de l'apprentissage au niveau des apprenants. Parce que lorsque vous avez votre téléphone portable, même dans le sac, vous n'êtes plus concentré. Et ils peuvent l'utiliser également pour prendre des photos, pour prendre des choses malsaines. Voilà l'une des raisons. Et l'autre, vous voyez que lorsque les jeunes sont avec leur téléphone portable, ils vivent dans un monde virtuel. Donc c'est pour la santé mentale également de cet apprenant.
Aussi, est-il interdit à tout élève de créer, publier, diffuser ou partager sur les réseaux sociaux des contenus indécents, attentatoires à l'honneur et à la dignité ou susceptibles de nuire à l'image de son établissement scolaire. Cette décision, prise par les autorités, emporte l'adhésion des parents d'élèves.
Quand nous avons eu écho de cette décision, nous parents, nous avons dit merci. Merci parce que nos enfants s'habituent trop au portable. Ils oublient même le cahier.
Le portable, nous savons que c'est vraiment une nécessité, mais pas à l'école. Arrivé à l'école, nos enfants n'arrivent pas à suivre les cours comme cela se doit.
Sylvestre, parent de deux jeunes garçons au collège, demande une rigueur dans l'application de cette décision.
Puis en 2020, il y a des jeunes filles qui dansaient en tenue scolaire dans les écoles avec des vidéos obscènes, certains qui s'accoupaient. Et tout, l'année dernière, il y a un élève qui, pendant que le professeur faisait le cours, il se filmait en disant que même si le professeur est là, nous on s'en fout.
Jérôme, un peu circonspect sur la décision d'interdiction, préfère mettre l'accent sur d'autres réformes initiées par le ministère des Enseignements pour occuper les élèves et les éloigner, un tant soit peu, du téléphone portable.
Il a demandé aux écoles de faire des projets qu'il a appelé projet école, qui va permettre à ces établissements d'enseigner de petits trucs aux élèves, apprendre à monter les panneaux solaires, les filtres à eau.
En attendant, tout contrevenant à la décision de l'interdiction d'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires, se verra tout simplement confisquer l'appareil sans possibilité de restitution. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM. Les récentes inondations dans le nord-est du Nigeria ont provoqué le déplacement d'au moins 50 000 personnes. Dans la région du Sahel et du lac Tchad, de fortes inondations ont exacerbé les crises humanitaires au Cameroun, au Mali et au Niger. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle augmente son aide aux plus vulnérables. Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar, au Sénégal, la responsable plaidoyer du Conseil norvégien pour les réfugiés, Christelle Huré.
Cette année, il y a eu 2,3 millions de personnes impactées par les inondations en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais récemment, il y a eu vraiment une accélération. Bien que dans l'Est du Nigeria, on a vu 50 000 personnes qui ont été déplacées en un seul week-end, plus de 200 000 personnes qui ont été touchées au Cameroun et il y en a encore énormément d'autres au Mali et au Niger. On voit que ces inondations, elles vont toucher les populations les plus vulnérables parce que c'est souvent dans des zones qui sont déjà fragilisées par les conflits. En termes d'impact immédiat, il y a eu pas mal de morts, énormément de personnes qui ont été déplacées. Après, il y a aussi toutes les terres agricoles qui sont bien entendu essentielles à la sécurité alimentaire qui ont été détruites. Et on a aussi une grosse inquiétude par rapport aux maladies qui pourraient arriver comme le choléra du fait des problématiques d'assainissement et d'hygiène dans ces zones.
Justement, parlant de la région du Sahel et celle du lac Tchad, c'est déjà des régions en proie à l'insécurité. Est-ce que cela aussi augmente, j'allais dire, les souffrances de ces populations-là?
Oui, c'est en fait parce que c'est souvent déjà les populations les plus vulnérables qui ont été impactées, donc des populations qui déjà, pour certaines, ont un accès difficile à la terre à cause du conflit, ou ont déjà été déplacées, ou ont des moyens d'existence extrêmement limités. À Maïdougouri, au niveau de l'état du Borno au Nigeria, il y a eu énormément d'inondations, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes déplacées qui vivent encore à Maïdougouri. En tout, dans les 7 pays qui ont été plus impactés par les inondations, il y a plus de 290 000 personnes qui ont été déplacées, et parmi elles, il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà déplacées à cause des conflits.
Quels sont les besoins immédiats de ces populations en détresse dans la région du Sahel et celle du lac Tchad?
Alors, notre priorité immédiate, c'est vraiment de s'assurer que les populations reçoivent un soutien essentiel tel qu'un abri, de la nourriture, de l'eau, bien entendu, et puis des produits d'hygiène. Tout ça se fait, bien entendu, de manière coordonnée avec les gouvernements, qui ont fait preuve d'une grande réactivité et d'une grande solidarité dans la réponse immédiate aux inondations.
Vous dites lancer un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle augmente son aide aux populations vulnérables de ces régions-là. Est-ce que vous sentez que ces populations ne bénéficient pas d'assez de soutien de la communauté internationale?
alors qu'on arrive vraiment proche à la fin de l'année sur l'ensemble du besoin financier qu'on a. Seuls 25% de ces besoins financiers ont été couverts. C'est beaucoup moins que dans d'autres régions. Et cette année, si on regarde les 11 crises les plus mobilisées dans le monde, elles sont toutes en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Christelle Huré, responsable plaidoyer du Conseil norvégien pour les réfugiés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.